Histoire de la Réformation du XVIe siècle. 16.2. Underwald veut rétablir la messe. Zwingle veut y maintenir la liberté. Guerre. Zwingle part. Armement des 5 cantons. Médiation du landman Aibli. Intervention de Berne. Opposition de Zwingle. Cordialité suisse. Discipline zurichoise. Une conférence. Traité de paix. Le traité avec l'Autriche déchiré. Hymne et tristesse de Zwingle. Les femmes disent la messe. Le samedi 5 juin 1529, 7 jours après le martyre de Kaiser, tout Zurich était en mouvement. Le moment était venu où Underwald devait envoyer un gouverneur au bailliage commun. Et, les images ayant été brûlées dans ces contrées, Underwald avait juré d'en tirer une éclatante vengeance. Aussi, l'épouvante était-elle générale. Le bûcher de Kaiser, pensait-on, va se rallumer dans tous nos villages. Plusieurs habitants accouraient à Zurich, et sur leur figure émue, effrayée, on eût cru voir se refléter les flammes qui venaient de consumer le martyr. Ces malheureux trouvèrent dans Zwingle un puissant avocat. Le réformateur pensait enfin être arrivé au but qu'il n'avait cessé de poursuivre, la libre prédication de l'Évangile dans toute la Suisse. Donner un dernier coup suffisait, selon lui, pour mener à bonne fin cette entreprise. David, pensionnaire, dit Zwingle aux Zurichois, profite de l'ignorance du peuple des montagnes pour ameuter ces hommes simples contre les amis de l'Évangile. Sévissons donc contre des chefs orgueilleux. La douceur de l'agneau ne ferait que rendre le loup plus vorace encore. Proposons aux 5 cantons de laisser prêcher librement la parole du Seigneur, de renoncer à leurs iniques alliances et de punir les fauteurs des pensions étrangères. Quant à la messe, aux idoles, aux rites et aux superstitions, que personne ne soit contraint à les abandonner. C'était la parole de Dieu seul à disperser de son souffle puissant toute cette vaine poussière. Soyez ferme, noble Seigneur, et, malgré certains chevaux noirs, aussi noirs à Zurich qu'ils le sont à Lucerne, mais dont la malice ne pourra parvenir à faire verser le char de la réforme, nous franchirons ce passage difficile et parviendrons à l'unité de la Suisse et à l'unité de la foi. Ainsi, Zwingle, en réclamant l'emploi de la force, ne voulait pour l'Évangile que la liberté, mais il voulait une prompte intervention pour que cette liberté lui fût assurée. Et Colampad pensait de même. « Ce n'est pas l'heure des délais, disait-il. Ce n'est pas le moment de la parcimonie et de la pusillanimité. Tant que le venin ne sera pas entièrement ôté de ce serpent réchauffé dans notre sein, nous serons exposés au plus grand péril. » Le conseil de Zurich, entraîné par le réformateur, promit au bailliage de maintenir la liberté religieuse. Et à peine eut-il appris qu'Antoine Abaker d'Underwald se rendait à Bade avec une armée, qu'il ordonna à 500 hommes de partir pour Bremgarten avec 4 pièces d'artillerie. C'était le 5 juin, et le soir même, l'étendard zurichois flottait sur le couvent de Moury. La guerre de religion était commencée. Le corps des Wallstätts retentit aussitôt dans les montagnes. Partout on se mettait sous les armes, et des messagers allaient en hâte invoquer le secours du Valais et de l'Autriche. 3 jours après, le mardi 8 juin, 600 hommes de Zurich sous le commandement de Jacques Werdmüller, partait pour Rapperswil et le pays de Gaster. Et le lendemain, 400 hommes se rendaient à Capel, sous le commandement du vaillant capitaine Georges Berger, auquel on avait donné Conrad Schmidt, pasteur de Kusnacht, pour aumônier. « Nous ne voulons pas, dit à Zwingle le bourgmestre Raust, que vous alliez à la guerre, car le pape, l'archiduc Ferdinand, les cantons romains, les évêques, les abbés, les prélats, vous haïssent mortellement. Restez avec le conseil. Nous avons besoin de vous. » Non, répondit Zwingle, qui ne se reposait sur personne d'une entreprise si importante. Quand mes frères exposent leur vie, je ne demeurerai pas tranquillement assis auprès de mes foyers. D'ailleurs, l'armée aussi a besoin d'un œil vigilant qui se porte sans cesse tout alentour d'elle. Puis, prenant une brillante hallebarde qu'il avait, dit-on, portée à Marignan, et la plaçant sur son épaule, le réformateur sauta sur son cheval et partit avec l'armée. Les murailles, les tours, les créneaux étaient couverts d'une foule de vieillards, d'enfants, de femmes, parmi lesquels se trouvait Anna, la femme d'Ulrich. Zurich avait réclamé le secours de Berne, mais Berne, dont le peuple montrait peu de goût pour une guerre religieuse, et qui d'ailleurs ne voyait pas avec plaisir l'influence croissante de Zurich, répondit « Puisque Zurich a commencé la guerre sans nous, qu'ils la finissent de même. » Les États évangéliques se montraient désunis au moment de la lutte. Les cantons romains ne faisaient pas ainsi. C'était ceux qui avaient fait entendre le premier cri d'appel. Et les hommes de Schwitz, d'Uri, d'Underwald s'étaient aussitôt mis en marche. Dès le 8 juin, la grande bannière flottait devant la maison de ville de Lucerne. Et le lendemain, l'armée partait au son des antiques cors que Lucerne prétend avoir reçus de l'empereur Charlemagne. Le 10 juin, les Zurichois établis à Capel envoyèrent à Suc, au point du jour, un héros chargé, selon l'usage, de dénoncer aux 5 cantons la rupture de l'alliance. Aussitôt, Suc se remplit de détresse et d'alarme. Ce canton, le plus petit de la Suisse, n'ayant point encore reçu tous les contingents confédérés, était hors d'état de se défendre. On courait çà et là. On envoyait des messagers. On se préparait précipitamment à la bataille. Les guerriers essayaient leurs armes. Les femmes versaient des pleurs. Les enfants poussaient des cris. Déjà, le premier corps de l'armée zurichoise, composé de 2000 hommes, sous le commandement de Guillaume Thoming, placé près de la frontière au-dessous de Capel, s'apprêtait à partir lorsqu'on aperçut du côté de Bar un cavalier qui, pressant les flancs de son cheval, accourait aussi vite que le lui permettait la montagne qu'il avait à gravir. C'était Ebli, le landman de Glaris. « Les 5 cantons sont prêts, s'écria-t-il en arrivant, mais j'ai obtenu d'eux de s'arrêter si vous consentez à faire de même. C'est pourquoi, pour l'amour de Dieu et le salut de la Confédération, je supplie mes seigneurs de Zurich et tout le peuple de suspendre maintenant leur marche. » En disant ces mots, le brave Helvétien versait des larmes. « Dans peu d'heures, continua-t-il, je serai de retour. J'espère, avec la grâce de Dieu, obtenir une paix honorable et empêcher que l'on ne remplisse nos chalets de veuves et d'orphelins. » On connaissait Ebli pour un homme plein de loyauté, ami de l'Évangile, ennemi des guerres étrangères. Aussi son discours émut-il les capitaines zurichois qui résolurent de s'arrêter. Zwingle, seul, debout, inquiet, le regard en avant, voyait dans l'intervention de son ami les machinations des adversaires. L'Autriche, occupée à repousser les Turcs, ne pouvant secourir les 5 cantons, les avait exhortés à la paix. C'était là, selon Zwingle, le motif des propositions apportées par le landman Glaris. Aussi, au moment où Ebli tournait bride pour se rendre à Zug, Zwingle, s'approchant, lui dit-il énergiquement, « Compère Landman, vous rendrez compte à Dieu de tout ceci. Nos adversaires se voient dans le sac. C'est pourquoi ils vous donnent de bonnes paroles. Mais plus tard, ils fondront sur nous, à l'improviste, et alors personne ne nous délivrera. » Parole prophétique et dont l'événement devait dépasser toutes les prévisions. « Cher compère, répondit le landamman, j'ai cette fiance en Dieu que tout ira bien. Faisons chacun de notre mieux. » Et il partit. Alors, au lieu de marcher sur Sud, l'armée zurichoise se mit à dresser ses tentes sur la lisière de la forêt et le long de la rive du torrent, à quelques pas des sentinelles des 5 cantons. Zwingle, assis dans la sienne, silencieux, préoccupé et morne, attendait d'heure en heure quelque fâcheuse nouvelle. Elle ne se fit pas longtemps attendre. Ce furent des députés du conseil de Zurich qui l'apportèrent. Berne, soutenant le rôle qu'il avait si souvent rempli de représentant de la politique fédérale, déclara que si Zurich ou les cantons ne voulaient pas faire la paix, on saurait les y contraindre. En même temps, cet État convoquait une diète à Aarau et mettait 5000 hommes en campagne sous le commandement de Sébastien de Diesbach. Zwingle fut consterné. Le message d'Ebli, appuyé par celui de Berne, était renvoyé à l'armée par le conseil. Car selon les principes du temps, là où flotte la bannière, là se trouve Zurich. « Ne nous laissons point ébranler, s'écria le réformateur, toujours ferme et décidé. Notre avenir dépend de notre courage. Aujourd'hui, on supplie, on mendie, et dans un mois, quand nous aurons posé les armes, on nous écrasera. Demeurons fermes en Dieu. Avant tout, soyons justes. Après cela viendra la paix. » Mais Zwingle, transformé en homme d'État, commençait à perdre l'influence qu'il avait gagnée comme serviteur de Dieu. Plusieurs ne pouvaient le comprendre et se demandaient si c'était bien là le langage d'un ministre du Seigneur. « Ah, disait celui de ses amis, qu'il a peut-être le mieux connu, Oswald Mikonius. Zwingle a été certainement un homme intrépide dans les dangers, mais il eut toujours horreur du sang, même de celui de ses plus mortels ennemis. La liberté de la patrie, les vertus de nos pères, et surtout la gloire du Christ, ont été le but unique de tous ses desseins. Je dis la vérité comme en la présence de Dieu, ajoutait Mikonius. Pendant que Zurich envoyait ses députés à Aarau, les deux armées recevaient des renforts. Des Turgoviens et des Saint-Gallois venaient associer leur bannière à celle de Zurich. Des Valaisans et des hommes du Saint-Gothard se joignaient au canton catholique. Les avant-postes étaient en présence à Thann, à Limmat, à Goldisbrunnen, sur les revers délicieux de l'Albis. Jamais peut-être la cordialité suisse ne brilla mieux de son antique éclat. Les soldats s'appelaient amicalement, se serraient la main, se disaient qu'ils étaient des confédérés et des frères. « Nous ne nous battrons pas, ajoutait-il. Une tempête a passé sur nos têtes, mais nous prierons Dieu, et il nous préservera de tout mal. » La disette désolait l'armée des cinq cantons, tandis que l'abondance régnait dans le camp de Zurich. Quelques jeunes Valstedts, affamés, dépassèrent un jour les avant-postes. Les Zurichois les firent prisonniers, les conduisirent au camp, puis les renvoyèrent chargés de provisions avec plus de bonhomie encore que n'en montra Henri IV au siège de Paris. Un autre jour, quelques braves des cinq cantons, ayant posé sur les frontières un seau plein de lait, crièrent aux Zurichois qu'ils n'avaient point de pain. Ceux-ci arrivèrent aussitôt et coupèrent leur pain dans le lait de leurs ennemis. Puis les soldats des deux partis se mirent en plaisantant à manger à la gamelle, les uns de ça, les autres de là. Les Zurichois trouvaient plaisant que malgré la défense de leurs prêtres, les Valstedts mangeassent avec des hérétiques. Quand quelqu'un de la troupe prenait un morceau qui se trouvait du côté de ses adversaires, ceux-ci, en riant, le frappaient de leur cuillère et lui disaient « Ne dépasse pas la frontière ». C'est ainsi que ces bons Helvétiens se faisaient la guerre. Aussi, le bourgmestre Sturm de Strasbourg, l'un des médiateurs, s'écriait-il « Vous autres confédérés, êtes de singulières gens. Quand vous êtes désunis, vous êtes pourtant toujours d'accord, et votre antique amitié ne sommeille jamais. » L'ordre le plus parfait régnait dans le camp de Zurich. Tous les jours, Zwingli, le commandeur Schmidt, ou quelque autre ministre y prêchait. On n'entendait parmi ces soldats ni jurements ni disputes. Toute personne déshonnête était repoussée du camp. On priait avant et après les repas, et chacun obéissait à ses chefs. Point de dés, point de cartes, point de jeu propre à exciter les querelles. Mais des chants, des cantiques, des hymnes nationaux, des exercices du corps, des luttes et des jets de pierre. Telles étaient les récréations militaires des Zurichois. L'esprit qui animait le réformateur avait passé dans cette armée. L'assemblée d'Arau, transportée à Steinhausen, dans le voisinage des deux camps, arrêta que chacune des armées entendrait les plaintes du parti contraire. La réception des députés des cinq cantons par les Zurichois fut assez tranquille. Il n'en fut pas de même dans l'autre camp. Le 15 juin, 50 Zurichois, entourés d'une foule de campagnards, se rendaient à cheval vers les Valstedts. Le son des trompettes, le bruit des tambours, des salves redoublées d'artillerie, annonçaient leur arrivée. Près de 12 000 hommes des petits cantons, en bon ordre, la tête levée, le regard arrogant, se trouvaient sous les armes. Eschker de Zurich parla le premier. Et plusieurs hommes de la campagne articulèrent, après lui, des griefs que quelques Valstedts trouvèrent exagérés. « Quand donc vous avons-nous refusé le droit fédéral ?» s'écrièrent ceux-ci. « Oui, oui, » reprit vivement Funk, ami de Zwingli. « Nous savons comment vous l'exercez. Ce malheureux pasteur, Kaiser, l'a invoqué, et vous l'avez renvoyé au bourreau. » « Funk, tu eusses mieux fait de te taire, » dit un de ses amis. Mais le mot était lâché. Un affreux tumulte s'éleva soudain. Toute la foule des Valstedts s'agitait. Les plus prudents supplièrent les Zurichois de se retirer promptement et protégèrent leur départ. Enfin, le traité fut conclu le 26 juin 1529. Zwingli n'obtenait pas tout ce qu'il avait désiré. Au lieu de la libre prédication de la parole de Dieu, le traité ne stipulait que la liberté de conscience. Il arrêtait que les bailliages communs pourraient se prononcer pour ou contre la réforme à la pluralité des suffrages. Sans décréter l'abolition des pensions, et la recommandait au canton catholique. L'alliance formée avec l'Autriche était abolie. Les 5 cantons devaient payer les frais de la guerre, et Murner rétractait ses propos injurieux. Une indemnité était assurée à la famille de Kaiser. Un succès incontestable venait de couronner la démonstration belliqueuse de Zurich. Les 5 cantons le sentaient. Morne, aigri, rongeant en silence le frein qu'on plaçait dans leur bouche, leur chef ne pouvait se décider à livrer l'acte de leur alliance avec l'Autriche. Zurich rallia aussitôt son armée. Les médiateurs redoublèrent d'instance et les Bernois s'écrièrent « Si vous ne livrez pas ce document, nous irons nous-mêmes en procession le prendre dans vos archives. » On l'apporta enfin à Cappel le 26 juin, à 2 heures de la nuit. Toute l'armée s'assembla à 11 heures avant midi et l'on commença à lire le traité. Les Zurichois regardaient avec étonnement sa largeur, sa longueur démesurée et les 9 sceaux dont il était muni et dont un était en or. À peine eut-on lu quelques mots qu'Ebli, saisissant le parchemin, s'écria « C'est assez !»« Lisez, lisez !» dirent les Zurichois. « Nous voulons connaître leur trahison. » Mais le landamman de Clarisse répondit fièrement « Je me laisserai hacher en 1000 morceaux plutôt que de le permettre. » Puis, donnant un coup de couteau dans le parchemin, il le mit en pièces en présence des soldats et de Zwingle, et en jeta les morceaux au secrétaire pour les livrer aux flammes. « Ce papier n'était pas suisse, » dit Bullinger, avec une sublime simplicité. Aussitôt, on leva les bannières. Ceux d'Underwald s'en retournaient avec colère. Ceux de Schwitz juraient qu'ils garderaient, à jamais, leur antique foi. Tandis que les bandes de Zurich rentraient en triomphe dans leur foyer. Mais les pensées les plus contraires agitaient l'esprit de Zwingle. « J'espère, disait-il en se faisant violence, que nous rapportons dans nos maisons une paix honnête. Ce n'est pas pour faire du carnage que nous étions partis. » Dieu a de nouveau montré aux grands qu'ils ne peuvent rien contre nous. Mais quand il s'abandonnait à son penchant naturel, un tout autre ordre de pensée s'emparait de son esprit. On le voyait marchant à part, abattu, et prévoyant le plus sombre avenir. En vain était-il entouré des cris de joie du peuple. « Cette paix, disait-il, que vous regardez comme un triomphe, vous vous en repentirez bientôt en vous frappant la poitrine. » Ce fut alors que, pour épancher sa douleur, il composa en descendant l'Albis un chant célèbre, souvent répété au son des instruments dans les campagnes de la Suisse, au milieu des bourgeois des villes confédérées et jusqu'à la cour des rois. Les cantiques de Zwingle et de Luther jouent le même rôle dans la réformation allemande et suisse que les psaumes dans celle de la France. Ô Seigneur, de ton char, prends toi-même les rênes. Sans ta main il se brise et nos courses sont vaines. Vois et regarde où nous ont mis les ruses de nos ennemis. Ô bien-aimé pasteur qui racheta nos vies, réveille par ta voix tes brebis endormies. Accours et de tes bras puissants, enchaîne ces loups dévorants. Du milieu de nos monts bannis toute amertume, que l'esprit des vieux temps parmi nous se rallume, et que notre fidélité célèbre à jamais ta bonté. Un édit publié au nom des confédérés ordonna de faire partout renaître la vieille amitié et la concorde fraternelle. mais les édits sont impuissants pour de tels miracles. Ce traité de paix fut néanmoins favorable à la réforme. Sans doute elle rencontra encore en plusieurs lieux une vive opposition. Les religieuses du Val-Sainte-Catherine en Turgovie, abandonnées de leurs prêtres et excitées par quelques gentilshommes d'Outre-Rhin, qui les nommaient dans leurs lettres « femmes chevaleresques de la maison de Dieu », chantèrent elles-mêmes la messe et établirent l'une d'elles prédicateur du couvent. Des députés des cantons protestants, ayant eu avec elle une entrevue, l'abbesse et d'autres religieuses traversèrent de nuit, secrètement, le fleuve, en emportant les titres du monastère et les ornements de l'église. Mais ces résistances isolées étaient inutiles. Déjà, en 1529, Zwingli put tenir en Turgovie un synode qui y organisa l'église et ordonna que les biens des couvents seraient consacrés à instruire dans les saintes lettres des jeunes hommes pieux. Ainsi, la concorde et la paix semblèrent enfin se rétablir dans la Confédération.